Brestois, Brestoise, gagner c'est bien, mais gagner en marquant 5 buts, c'est encore mieux. Bienvenue pour ce 24e épisode de Brest On Air, où je suis rejoint cette fois-ci par deux personnes. Et oui, on t'a surnommé le Souleymane Camara de ce podcast, après une entrée en jeu décisive presque à la mi-temps du podcast. C'est Yann qui est là, cette fois présent dès la première minute. Salut Yann.
Salut, présent de la première à la dernière minute cette fois.
Ah, on te le souhaite, en tout cas, ça ne dépend peut-être pas de toi. Mais on espère aussi que Fanch sera présent de la première à la dernière minute. Salut Fanch.
Salut, c'est prévu.
C'est parfait. On va évidemment revenir sur la victoire de Brest à Toulouse. C'était donc samedi soir au Stadium. On continuera par les news et des jeux. Des jeux que Yann nous a préparés. Il n'y en a pas eu la semaine dernière puisque on ne pensait qu'être deux, et finalement comme j'ai dit, l'intervention de Yann telle une reprise de Charbonnier sur un centre d'Alexandre Mendy est arrivée, mais on n'avait donc rien préparé. Alors rien préparé, c'est peut-être ce qu'avait fait le Stade Brestois contre Toulouse, pour une transition exceptionnelle, on peut le dire. Voilà. C'était un match très particulier, très étrange, avec un, outre le score qui est quand même assez inouï, on va dire. C'était un match quand même très compliqué, d'une part. Et puis, à partir de la 70e minute, il y a des exploits individuels qui sont arrivés et qui ont permis au Stade Brestois de l'emporter. Mais si Olivier Daoglio s'intéresse au contenu, je suis pas sûr qu'il soit entièrement satisfait de la prestation brestoise.
Surtout de la première mi-temps. Enfin, moi j'ai marqué, c'est entre la 10e minute et la 70e en fait. À partir du moment où on mène 1-0, on est vraiment retombé dans les travers des matchs à l'extérieur, et c'est d'autant plus inquiétant. Finalement, je trouve que c'est face à une équipe qui est un peu nulle. Enfin, c'est Toulouse qui est dernier, qui gagne pas un match. On a quand même été bien bousculé pendant une bonne partie du match. Et on avait fait l'erreur, je pense, après Strasbourg, de gonfler un petit peu cette victoire 5-0. Là, il faudra être très très méfiant. À mon avis, c'est pareil, hein, ce 5-2, aussi exceptionnel soit-il à l'extérieur, et ces 20 dernières minutes de très 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 bonne qualité en termes de réussite surtout, il faut arriver à les nuancer et à rester les pieds sur terre. C'est trois points qui sont hyper importants, je pense, qui vont faire du bien dans les têtes, mais pas une prestation aboutie malgré le score.
Non, je rejoins totalement. Juste peut-être ce qui m'a vraiment le plus énervé sur ce match-là, c'est que tout le monde en avait parlé avant le match. Olivier Daloguio, le premier, c'était vraiment le match à ne pas rater. Et après 10 minutes, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'engagement. Enfin, j'ai pas trouvé Toulouse extrêmement bon, pas extrêmement mauvais non plus, mais là où ils nous ont bouffé, c'est vraiment dans l'engagement. Et c'est clairement le point où je voulais pas qu'on soit bouffé.
Ça peut être illustré par les coups de pied arrêtés, puisque généralement on dit que les coups de pied arrêtés c'est une affaire d'envie. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais si on s'arrête à cette phrase, on prend les deux buts sur des coups de pied arrêtés. Donc effectivement, il y avait peut-être un problème de détermination. Néanmoins, j'ai trouvé Toulouse, donc qui venait de changer d'entraîneur, assez compétent sur cette première mi-temps. Vraiment intéressant, largement au-dessus de ce qu'on pourrait proposer de notre côté. Quelques sorties de balles, quelques enchaînements en une touche de balle, c'était plutôt séduisant côté Toulousain, donc le résultat n'est pas pour eux, et tant mieux. Mais je pense qu'ils sont plus optimistes après le match qu'avant le match concernant un éventuel maintien.
Après, je pense que si c'est dans les têtes que ça a flanché de leur côté, à partir du moment où ils prennent ce but de Charbonnier, qui vient quand même d'ailleurs, faut pas se le cacher. À mon avis, ils ont pris un énorme coup à la tête, et comme le troisième but vient très très vite, après, le quatrième et le cinquième, hein, c'est comme le catch-up, et on appuyait, puis ça venait dans tous les sens. Donc c'est vraiment à nuancer. Effectivement, je suis d'accord avec Quentin sur la compétence toulousaine dans cette première mi-temps, mais c'est d'autant plus inquiétant quand même que nous, on n'a pas proposé grand-chose, alors qu'en plus, on mène au score, on a la chance de mener. Pour revenir sur les coups de pied arrêtés, c'est vrai qu'on prend deux buts sur corner, un corner direct et un corner joué en deux temps, donc le premier but c'est en deux temps. Ça montre quand même un manque de concentration aussi, je pense, qui est assez flagrant. Et idem, au bout de 45 secondes, on est en grande difficulté sur un corner, donc on avait été prévenu. C'est pas comme si on y marque sur le premier corner, non, on a été prévenu sur le premier, et on fait deux grosses erreurs ensuite, donc ça c'est vraiment problématique. Je sais pas comment régler cette situation, parce qu'on est quand même déjà au mois de janvier.
Tu parlais de la concentration, justement, au-delà même du corner. Ce qui est flagrant, c'est la manière dont les deux corners sont amenés. C'est-à-dire que le premier, c'est une touche où on ne suit pas du tout. On laisse le mec aller tranquillement. Le deuxième, c'est bon. C'est peut-être la première erreur de Gauthier Larsonneur cette saison. Comme on gagne, on ne va pas lui en tenir rigueur et on ne l'aurait pas fait de toute façon.
Il y a aussi, je pense que pour parler de ce match, ce match nous intéresse et l'analyse peut commencer aussi. Quelques heures avant le début du match, avec l'annonce du groupe. Parce qu'il y avait encore des choix intéressants de Olivier Dalloglio qui s'est carrément passé de Denis Bain et de Mathias Autrette. Je pense qu'il y a aussi un coup de mou physique pour Autrette qui a besoin pour réussir. Parce qu'on sait que voilà, il pèse pas sur une rencontre pendant 90 minutes et il est présent en étant décisif par certains moments. Et lorsqu'il n'est pas au point physiquement, voilà, il est beaucoup moins dans les zones de vérité. Et du coup, bah, son influence dans le jeu est très très réduite. Et ce qui fait qu'il fait vraiment des très mauvais matchs, quoi.
Après, à chaque fois qu'il joue, tu mentionnes le pourcentage de passes réussies. Et ça, je sais pas de quoi ça vient, mais il sait plus faire une passe.
Ah oui, c'est catastrophique, oui.
Là, on l'a vu à Lorient encore, quand il est rentré, il y avait des passes à 10 mètres qui n'arrivaient pas dans les pieds brestois.
Et là, pareil, je pense que c'est un manque de concentration ou d'implication. La passe, c'est de la technique pure. C'est pas de la combativité, c'est pas de l'envie, c'est de la qualité technique, de la concentration. Et c'est très problématique de rater des choses aussi simples, je trouve, quand même.
Alors, par contre, pour parler de Denis Bain, là, il y a sûrement des détails qu'on ne sait pas. Parce que ses performances sont loin d'être mauvaises, de mon point de vue. Oui, il avait joué tous les matchs, mais de là à ne pas le prendre pour le mettre sur le banc comme il le fait d'habitude. Ou alors c'était il avait manqué un match aussi, non? Avant la trêve.
Oui, je crois que c'était le match de Strasbourg.
C'était pas à Lille?
Il manque pas le match de Strasbourg également, il me semble qu'il est hors du groupe pour Strasbourg.
Ah oui, à Lille il rentre, Castelletto se blesse. Mais oui, il a raté un match avant la trêve, donc le problème, s'il y en a un, ne date pas de cette semaine. Mais de là à le trouver, je pourrais pas supposer.
Non, moi j'avais trouvé plutôt bon aussi contre Lorient, même s'il fait quand même cette erreur et qu'il amène le penalty. À Lyon, en Coupe de la Ligue, de toute façon, c'était pas un match.
Enfin, c'était pas mal débrouillé par rapport à l'implication des joueurs offensifs. Il y avait beaucoup de 1 contre 1 avec les contre lyonnais, et je trouvais plutôt pas mal. Hein. Le but est un peu, le premier but est un peu bizarre. Parce qu'il parle d'un 6 mètres, mais je l'avais pas trouvé hors de propos en tout cas.
Mais je pense que
soit dans le comportement ou dans sa prestation.
Pour moi, en Ligue 1, il a perdu sa place au profit du Verne. Dans l'esprit de Dalloglio, je pense.
Bah là, oui, je pense que c'est sûr, non?
J'ai l'impression, hein, vraiment, pour moi, Duverne est devenu un défenseur titulaire. Et je sais pas si. Est-ce que c'est parce qu'il a été acheté, qu'il est plus jeune et qu'il a rien. Je sais pas si c'est pour ça qu'il joue ou pas, mais je vois pas vraiment de raison de sortir de Denis Bain comme ça, alors qu'on l'avait trouvé plutôt bon, on le répétait à l'envie sur le podcast, plutôt bon depuis le début de saison pourtant.
Moi je trouve ça plus logique, plutôt logique, parce que monsieur Denis Bain, c'est très bien, mais il faut faire attention à ce que vous faites avec vos cheveux, parce que le côté chauve désormais c'est un peu inquiétant. C'est ma seule explication.
Ah c'est peut-être peut-être la raison. Faudra lui poser la question en conférence de presse si jamais un journaliste nous écoute. Est-ce que la raison est capillaire et uniquement capillaire? Pour revenir au match en lui-même, donc on partait vraiment sur un nouveau match un peu insipide à l'extérieur pour le Stade Brestois, une nouvelle défaite. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut qualifier ce qui s'est passé à partir de la 70e minute? C'était encore pire que contre Strasbourg, encore pire dans le sens où la réussite était encore plus maximale.
C'était presque insolent comme réussite, parce que si on regarde bien les buts, le but de Charbonnier, il est exceptionnel. Le but d'Embok, il est magnifique. Je sais pas, après.
Même celui de Cardona est pas.
Pas rentrante, donc c'est.
Il glisse un peu, il est un peu en déséquilibre, il arrive quand même à la mettre en barre rentrante. Si je suis Toulousain, il y a un moment donné, ça va quoi.
Et on va avoir des difficultés d'analyse, parce que comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est Toulouse qui a craqué, ou est-ce que c'est Brest qui a... je pense que c'est un peu des deux, à mon avis. C'est une réussite maximale d'un côté, et l'autre, de l'autre côté, c'est l'équipe qui est en pleine déliquescence et qui patauge dans le cassoulet, pour citer un auditeur du podcast très fidèle. Et qui voilà, a un peu baissé les bras aussi, je pense, après avoir encaissé le deuxième puis le troisième but, quoi.
Ouais, c'est vrai, tu fais bien de parler de leur perte de confiance parce que ça c'est parfaitement montré. Je pense qu'ils savaient absolument pas quoi faire entre défendre à 2-1 ou bien continuer à attaquer pour essayer de marquer le deuxième ou un troisième plutôt et faire deux buts d'écart.
Je
Je
pense que
pense qu'ils ont, enfin, ils ne savaient absolument pas quoi faire et au final ils ont balancé des ballons et les vagues se sont succédées. Alors les vagues elles étaient assez molles, en tout cas jusqu'à la 70e minute. Il y avait quelques centres par-ci par-là. Mais il n'y avait pas vraiment d'occasion brestoise non plus. Donc même à ce niveau-là, Toulouse n'était pas trop en danger et le fait de marquer 4 buts en 20 minutes arrive de façon encore plus surprenante.
Puis en fait, moi, enfin, j'ai revu la deuxième mi-temps à chaud. En fait, c'est très frappant, mais tu regardes le visage des Toulousains après l'égalisation brestoise. Dans leur tête, ils disent déjà qu'ils l'ont perdu ce match-là.
Ah, t'imagines, tu prends une passive de Mendy? Bon, c'est foutu. T'arrêtes le match.
Certes, on peut se comprendre, mais je veux dire, c'est là clairement le tournant et c'est comme le dit Fanch, enfin, ça montre que rien ne va à Toulouse, que dans leur tête. Sont déjà morts et j'ai même envie de te dire que c'est plus que dans leur tête qu'ils sont morts là.
Ah, je
Ouais,
pense
tu vois ensuite le troisième but où t'as une touche de Fossurier qui fait mais 30 mètres sans qu'il y ait un joueur toulousain sur la trajectoire du ballon. Et t'as Mendy qui pousse son adversaire. Mais il est presque dans les 6 mètres. Mais comment tu peux autoriser ça à la 72, 75e minute alors que t'es dernier, que tu peux pas te permettre de perdre ce match contre un concurrent direct, c'est.
Après, ils sont pas derniers par hasard non plus, hein.
Non, 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 non. Mais je pense qu'ils ont montré aussi que, en tout cas en première période, que enfin, ils sont certainement dans la course pour le maintien, mais peut-être pas la moins bonne équipe de Ligue 1.
En tout cas, ça va être compliqué pour eux, je pense, de se sauver avec 12 points après simplement maintenant 20 journées. Je sais pas s'il y a des équipes qui l'ont déjà fait cet exploit. Je pense que ce sera un exploit maintenant si Toulouse se sauve. Quoique maintenant, comme il y a le 18e qui descend plus, ils peuvent choper une place de barragiste.
Et puis ils sont pas très très loin encore. C'est
Après, il y a
peut-être
des
leur
équipes qui ont des matchs
réussite.
en retard. Donc, si les équipes remportent leur match en retard, je pense qu'ils sont un peu foutus quand même.
C'est ça, on sera très intéressé par le résultat de Nîmes, notamment demain pour nous.
Et Amiens qui reçoit Reims aussi.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Amiens qui est notre prochaine adversaire.
Sinon, ouais, dans le. Enfin, sur le début de match, moi j'ai revu le match du coup après. Et là, je le re-regarde encore en enregistrant parce que c'est toujours intéressant. Jusqu'à l'égalisation, on a quand même le ballon. Et c'est vraiment l'égalisation de Toulouse qui. Nous aussi, je pense que dans les têtes, faut pas oublier, on dit on reste sur plusieurs défaites de rang. C'est vrai qu'on avait perdu à Montpellier 4-0, on perd à Lorient, on perd à Lyon. On était peut-être parti pour une quatrième défaite consécutive et ça commence à compter. Je pense que l'équipe également connaît une perte de confiance assez importante et que cette victoire va vraiment faire énormément de bien. C'est même d'ailleurs un petit peu dommage de ne pas enchaîner dès samedi prochain avec la réception d'Amiens, mais d'avoir 15 jours d'attente. Je pense que l'équipe aurait été plus en jambes dès samedi prochain. Après, je trouve également que sur la manière de jouer, on a été peut-être un petit peu moins naïf parfois, en allant moins peut-être à l'abordage aussi. Et voilà, je
D'ailleurs,
pense
c'est Olivier Dallobio
que.
qui l'a crié. Je crois que c'était
Ah.
le journaliste de terrain qui l'a mentionné. Je ne sais pas si c'était à 2-2 ou à 3-2, sûrement à 3-2. Hein, mais il a bien crié pas à l'abordage, pas à l'abordage, quoi. C'est
Voilà.
plutôt bien de voir ça.
Bah du coup, oui, de toute façon, il faut qu'on. J'avais déploré le fait dans le dernier podcast que les erreurs se multipliaient, enfin les mêmes erreurs se multipliaient et se répétaient sans cesse et qu'on ne trouvait pas de réponse. Voilà, le fait peut-être de changer de philosophie, c'est vraiment bien de vouloir jouer et tout, mais il faut être aussi un petit peu pragmatique parfois. Et peut-être que là, c'est le début d'une nouvelle ère pour le Stade Brestois à l'extérieur. En tout cas, 5 buts à l'extérieur, c'est très très rare. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du club que ça arrive, à l'extérieur en tout cas. Et c'est très bon aussi pour le goal average parce que par rapport à Toulouse qui est à moins 23, nous on est à 0. 26 buts encaissés, 26 buts marqués. On est une bien meilleure attaque que beaucoup de clubs de Ligue 1.
Et c'est très agréable. Je trouve
Oui,
que c'est une
après,
belle statistique
simplement,
d'être une des
que.
meilleures attaques de Ligue 1.
Oui.
Puis tu compares notre goal average, je suis Toulouse, mais en fait, même quand on compare à tous ceux qui sont derrière nous, il y a du. Je crois que Nîmes est à moins 11, Amiens est à moins 14, moins 15, même Saint-Etienne est à moins 9. Enfin, c'est presque un point en plus, j'ai envie de te dire, dans une course en maintien.
Par contre, petite nuance, puisqu'on ne s'est pas encore déplacé au Parc des Princes, et que Olivier Dallobio au Parc des Princes, c'est souvent synonyme de catastrophe. Donc on pourrait se retrouver à moins 9 après un déplacement au Parc des Princes.
C'est vrai.
Après, vu comment le match est positionné dans le calendrier, on espère,
c'est vrai être, aussi. C'est
on
vrai
espère aussi. Être sauvé quand on ira là-bas.
Il y a peut-être moyen que ce soit avant une demi-finale ou un quart de finale de Ligue des Champions. Je n'ai pas encore vérifié le calendrier, mais c'est une possibilité.
Pour que le PSG soit déjà champion aussi, enfin voilà, c'est...
C'est vrai. Quand même y a moins... si c'est moins, le, moins possible que l'année dernière, par exemple.
Oui.
Parce qu'ils ont un concurrent, cette fois, digne de ce nom, on va dire. Tu mentionnais la perte de confiance des Brestois à l'égalisation toulousaine. Justement, je trouve que c'est à leur mérite de ne pas avoir abandonné, même à 2-1, et d'avoir continué à essayer de produire quelque chose, alors que c'était un peu brouillon, hein, mais bon... t'en parlais, le contexte faisait que à l'extérieur, voilà, on n'allait pas faire un match parfait juste après X défaites consécutives à l'extérieur. Mais justement, j'ai trouvé intéressant que les joueurs n'aient pas abandonné et continué à essayer d'égaliser. Et je pense que là-dessus, ils ont été récompensés par rapport à des Toulousains justement qui ont plutôt fait le dos rond, mais sans vraiment le faire non plus, quoi.
Bah, c'est un signe très rassurant, je trouve, sur l'état de santé de l'équipe, finalement. De voir que jusqu'à la fin, tu te bats malgré la situation. Les joueurs auraient peut-être pu voilà, perdre espoir, peut-être même lâcher à 2-1 en fin 70e minute. Bon, t'es toujours mené, encaisser un troisième et repartir avec une énième défaite, relancer un adversaire. Et là, non. Voilà, donc, en plus de gagner le match, enfin, je ne vais pas dire tu enterres, mais tu assommes, en tout cas, très sévèrement un adversaire direct. Et c'est d'autant plus agréable. Cette victoire, que c'est celle qu'elle intervient sur une semaine à trois matchs. Or, on sait depuis le début de la saison, le troisième match de ce genre de série a toujours été couronné d'une défaite. Et là, on a également progressé. Donc ça, c'est plutôt bien, plutôt cool.
Et est-ce que ça donne raison pour vous à la gestion de la semaine d'Olivier Dalloglio?
Justement, c'est ce que j'avais noté également. Est-ce que c'est Olivier Dalloglio qui en sort gagnant? Moi, je pense que oui, parce que ses choix ont été payants. Ces changements, cette fois-ci, contrairement à Lorient, ont donné du tonus à l'équipe et se sont révélés également payants parce que on a Alexandre Mendy qu'on a critiqué, et je pense qu'on a critiqué à raison, hein, sur les dernières semaines, qui s'est montré également intéressant. Il faut également le dire lorsque c'est, enfin, faut être juste dans l'analyse, qui s'est montré intéressant lorsqu'il est entré en jeu. Il a su conserver le ballon et il fait une très belle passe pour Charbonnier. Donc je pense que Olivier Dalloglio, sur son choix de, enfin le choix, il avait dit, hein, clairement que c'était Toulouse le match le plus important de la semaine. Il a eu raison. Sur sa gestion d'effectifs entre Lorient et Lyon, il a eu raison, même si j'aurais bien aimé voir l'équipe type à Lyon, parce que je pense vraiment qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et que finalement, le bilan de la semaine, moi, me convient. Enfin, j'aurais signé avant les trois matchs, j'aurais signé pour ça, quoi.
Mais encore une fois, est-ce qu'il ne faut pas nuancer, parce que le match finalement n'était pas très très bon.
Ah bah si. Bien sûr.
C'est un peu compliqué à analyser ce match, hein.
C'est un peu compliqué, il faut penser, mais au final, on fera le... Voilà, maintenant on avance dans la saison, et il y a ce qui compte le plus, de toute façon, on est déjà à la 20e journée, ce sont les points. Et ces trois points-là, même s'ils sont un petit peu tirés par les cheveux, un petit peu miraculeux, et voilà, je pense qu'ils font, quand même du bien lorsque on fera le bilan de l'année.
Et ils font peut-être même la différence.
Bah, c'est des matchs comme ça, comme à Angers, comme à Toulouse, ça nous fait 6 points entre ces deux rencontres, qui vont peut-être ouais, faire la différence sur des fins de championnat.
Après, il y a un autre point, c'est vraiment, peut-être pour moi, c'est l'enseignement le plus important du match, c'est que sur la deuxième partie de saison, on pourra et on va compter sur Gaëtan Charbonnier. Enfin, il a une réussite insolente de nouveau, il se balade. Enfin, on parle pas assez de sa passe pour Irvin Cardona en fin de match, mais c'est magnifique, quoi. Et si il est
magnifique.
Capable,
magnifique.
C'est ça, s'il est capable de réaligner ça, je sais pas, même un match sur deux... Mais il n'y aura aucun souci pour se maintenir.
D'ailleurs, on commence à voir une complicité naissante un peu plus importante entre Cardona et Charbonnier, parce que Cardona a également donné une passe décisive à Charbonnier là, pour le but du 3-2. C'est très intéressant. On sait que ce sont des choses qui prennent du temps, hein, entre un jeune joueur qui vient d'arriver au club. Et voilà, surtout que Charbonnier, c'est un joueur quand même assez atypique, donc je pense qu'il faut s'habituer à sa manière de jouer. Et Olivier Dalloglio disait quelque chose d'intéressant en fin de match, c'est aussi qu'ils ont replacé Charbonnier dans la surface de réparation, et il a dit, hein, c'est lui qui le dit, c'est là où il est le meilleur. Et effectivement, là, plus proche du but, forcément, les occasions sont plus importantes, puisque Quentin, tu disais dans les podcasts précédents que souvent, il n'avait pas d'occasion. C'est vrai, il traversait les matchs sans avoir d'opportunité de frappe et tout. Là, il en a quand même plusieurs. Hein. Je pense en première mi-temps, notamment à un centre de Cardona où il se trouve bien positionné, mais René repousse, il y a ses deux buts. Bon, c'est la confiance retrouvée. Donc sur ses trois derniers matchs, il met 4 buts, c'est bien. Il est dans l'équipe type de l'équipe et de France Football de la journée. Premier doublé en Ligue 1 depuis 2013. Je pense que pour lui, 2020 commence bien.
Et là aussi, peut-être que ça montre l'intelligence d'Olivier Dalloglio de le faire jouer en coupe, notamment à Bordeaux.
Oui.
Où je pense que s'il avait été en pleine confiance, il n'aurait pas joué. Et là, je pense que ce but contre Bordeaux lui a permis de retrouver un peu le chemin défilé. Et depuis, la réussite est là. Hein. Rien que le but contre Lorient, ça frappe et sa reprise est loin d'être propre. Mais ça rentre quand même. Contre Toulouse, il apprend un peu du tibia et ça fait pleine lucarne. Voilà, le deuxième but, là, il n'y a rien à dire par contre. Mais peut-être que sans les buts contre Lorient et Bordeaux, la reprise du tibia, elle part en tribune.
Oui, mais là, elle est partie en pleine lucarne.
Et c'est un but zidanesque, un peu contre Leverkusen, en 2002. C'est, j'imagine, votre homme du match, Gaëtan Charbonnier ?
Oui. Ah bah oui.
Oui.
Et c'est vrai que finalement, défensivement, il n'y a pas eu de joueur qui a performé outre mesure.
Au-delà de la satisfaction de voir Charbonnier marquer, c'est aussi le fait de voir toute la ligne d'attaque marquée, que ce soit Court. D'ailleurs, Court qui revenait bien, on a vu à Lorient l'autre jour. Court, Cardona, Charbonnier, c'est bien. Et d'ailleurs, on a marqué 26 buts et on n'a aucun joueur à plus de 4 buts. Donc c'est vraiment, ça montre une capacité de cet effectif à un petit peu. Enfin, contrairement plutôt à l'année dernière, on voyait Charbonnier qui, même si on a mis beaucoup, beaucoup de buts, c'est quand même Charbonnier qui en a mis un bon tiers. Là, ça peut venir d'un peu partout le danger. Et c'est aussi une force, je pense, lorsqu'on a une petite équipe, de ne pas se reposer que sur un seul joueur. Contrairement à Metz, par exemple, s'ils perdent Diallo. Bon, je pense qu'il pourrait être en grande difficulté. Nous, on a Cardona, on a Mendy dans une moindre mesure face au but, on a Court, on a Charbot évidemment. Bon, c'est intéressant. Batocchio.
Et pour contraster avec les buts toulousains, les 5 buts sont dans le jeu. Ce qui est plutôt agréable aussi, notamment quand on a un coach qui promeut justement les idées dans le jeu. Alors voilà, il y a des frappes de loin, il y a des super passes de Diallo justement. Ce qu'on lui demande un peu plus de faire, il l'a fait sur ce match contre Toulouse et ça a payé. Très belle passe, très belle ouverture pour Yoann Court pour le premier but.
Exact.
Et c'est agréable de voir des buts dans le jeu plutôt que. Alors on prend tous les buts évidemment, mais bon, les buts dans le jeu c'est mieux que les buts sur coup de pied arrêté quand même. Surtout quand ils sont à ce niveau de qualité.
Après, un but est un but. Hein, j'ai envie
de... Ah non, mais on les prend tous, hein, mais. Oui. C'est quand même plus agréable de les mettre dans le jeu après un centre, après une action construite, après une passe dans la profondeur, après une récupération haute comme sur le dernier but. Et on est largement meilleur dans les transitions cette année que l'année dernière où il n'y en avait presque pas finalement. Donc il y a des évolutions qui sont positives sur cette saison et c'est assez agréable. Alors on va peut-être revenir sur le premier but en Ligue 1. Et la performance de Yanga Mbok qui confirme un peu son statut de. Alors, est-ce qu'on va mettre quatrième milieu de terrain ? Est-ce que Magnetti est quatrième milieu de terrain ?
C'est surprenant parce que moi, je m'attendais, enfin, je n'ai pas regardé le match en direct et que je l'ai revu uniquement après, donc en connaissant le score malheureusement. Moi, je m'attendais, lorsqu'il y a eu changement et que j'ai su que Diallo était blessé, que Magnetti rentre finalement suite à ses bonnes performances, sa bonne entrée à Lorient et également un bon match. J'ai trouvé un bon match à Lyon, moi, de Magnetti. Et finalement, c'est Mbok qui est entré. Et
je pense que ça a eu la raison, c'est le poste.
Possible.
C'est-à-dire que je pense qu'il ne voulait pas peut-être avoir déjà trois petits gabarits, même si Lann joue petit en fait. Il n'est pas petit, mais il joue petit. Il joue plus petit que sa taille le laisse. Présenté. Et je pense qu'il voulait mettre quelqu'un d'un peu plus. Mbok n'est pas plus imposant, hein, mais voilà, c'est un poste différent de Magnetti et voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle il a préféré faire entrer Mbok à Magnetti. Et je pense que ça lui a souri hein, là-dessus. Les faits lui ont donné raison à l'entraîneur.
Et du coup, c'est bien de voir aussi. Ok, je pense pas que cette frappe il la tente si on perd 2-1 ou si on a 2-2. Mais la tenter à 3-2, ça montre aussi une certaine confiance du jeune joueur. Au-delà de la confiance, c'est aussi une qualité de frappe qui n'est pas du tout nouvelle hein, pour ceux qui l'avaient suivi, notamment toi, Quentin, qui l'ont suivi pas mal les années précédentes. Tu disais.
Chez les jeunes ou en N3, ouais, c'est une constante. Hein, c'est vraiment. De toute façon, on le voit dans sa frappe. Hein, C'est là qu'il n'invente pas, quoi.
Oui, voilà, c'est pas une chance, c'est pas de la chance. Il veut la mettre, c'est une frappe, il tente. Il avait marqué un but un petit peu du même style en amical contre Lorient cet été. Voilà, un joueur, un jeune joueur, très jeune joueur, formé au club en plus.
Brestois.
Brestois, bien sûr, à surveiller. Je pense que pour l'avenir, ça peut être intéressant aussi de l'avoir dans notre équipe.
Et bah, c'est très agréable de voir des jeunes formés au club. Et j'imagine que pour les formateurs aussi et les éducateurs du club, c'est une forme de reconnaissance de voir des jeunes jouer beaucoup plus régulièrement, que ce soit en coupe ou même en championnat là, contre Toulouse, en rentrant face à des en rentrant pour des joueurs qui sont plutôt importants, hein, puisque Diallo, c'est peut-être le meilleur joueur cette saison. Donc voilà, c'est une preuve de reconnaissance aussi de faire rentrer des jeunes joueurs formés au club.
Diallo, qui, n'oublions pas, n'a que 20 ans et lui aussi très jeune.
Oui, c'est vrai.
Mais il a déjà l'aspect de taulier, je dirais, dans l'équipe.
Ah oui, ça, clairement, clairement.
Diallo, Diallo, à mon avis, c'est un des premiers qui couche sur la feuille de match dans son 11 de départ. Et au début de saison, on se posait la question Diallo, Belkebla, lequel? Est-ce qu'on fait jouer les deux? Je pense que voilà, maintenant, même si Belkebla est blessé, donc c'est un peu plus compliqué, on se pose plus trop la question. Je pense que celui qui a vraiment le plus de potentiel, le plus de qualité intrinsèque, c'est Ibrahima Diallo. Selon moi, hein. Même si sans remettre en cause des qualités d'harceleur, de joueur de Belkebla, hein, bien sûr que j'aime beaucoup. Mais moi, Diallo, je le trouve vraiment supérieur.
Je pense que son potentiel, si tout se passe bien, c'est l'équipe de France.
Je sais pas, mais
dire qu'on est là.
Les 6 premiers mois, c'était quand même très difficile. Et il a fallu ce match à Niort, incroyable sous la pluie, où il a été remarquable, vraiment bluffant. Même on ne se comprenait pas, on se regardait dans le parquet, on ne comprenait pas trop ce qui se passait.
Et alors, surtout qu'il était avec donc Jacob et Ayas
au ouais.
pour un milieu de terrain légendaire. On peut parler de légendaire. Et peut-être que ce match avec ces deux joueurs qui sont quand même limités lui a peut-être fait prendre conscience de son potentiel. Et là-dessus, il faut quand même féliciter Jean-Marc Furlan pour sa progression et sa gestion d'Ibrahima Diallo.
Qui a été très bonne, oui.
Et aussi féliciter Grégory Renzi de l'avoir pris pour 2 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est quand même un coût assez dingue.
Je pense que ce sera certainement le record de vente d'un joueur à Brest, c'était Nolan Roux, 8 millions. Je pense que Diallo va battre ses 8 millions lorsqu'il sera vendu.
Et c'est possible que Cardona les batte aussi le jour où il partira.
On verra. On espère qu'en tout cas, moi je ne suis pas forcément fan de ce nouveau foot où on est là pour acheter des joueurs pour les revendre plus cher. J'espère juste les voir bons avec Brest et on verra plus tard quand.
C'est beau ce romantisme.
C'est peut-être de la même. Tu parles de romantisme, c'est peut-être même à l'heure actuelle de la naïveté de penser que Brest va essayer de les conserver. À mon avis, s'il y a une offre qui tombe, même l'été prochain pour Diallo à 10 millions, 15 millions, je ne sais combien, car on sait qu'il y a des gros clubs qui le suivent déjà, à mon avis, le stade le lâchera très rapidement et on pourrait les comprendre. Mais c'est frustrant. En revanche, on ne va pas vendre Paul Lund 15 millions.
Eh non. On peut en parler peut-être de Paul Lund. Je pense que c'est pour ça que tu voulais lancer le sujet.
Je pense, oui. Enfin oui, pas que je pense, et je suis sûr.
Est-ce qu'il y a un malaise RTL? Parce que bon, c'est quand même pas brillant. Hein.
Charbonnier, c'est réglé, donc parlons du malaise Paul Lund.
Bah oui, j'espère qu'il sera réglé, mais bon. Est-ce que tu y crois quand tu le dis?
Je trouve que c'est pas un mauvais joueur intrinsèquement, mais est-ce qu'il n'arrive pas à trouver sa place? Après, physiquement, c'est compliqué aussi. Il a souvent un temps de retard et c'est ça qui m'inquiète. Il a souvent un temps de retard, il est à contre-temps. Ça devrait être notre taulier au milieu et finalement, il fait vraiment très pâle figure à côté de Diallo. Je pense qu'il va être utile parce qu'on n'a que lui à ce poste-là. Mais voilà, je sais pas vraiment s'il y a encore des raisons d'y croire pour lui. En tout cas, il me déçoit. J'espère vraiment que ce sera mieux hein, dans les matchs à venir, mais je sais pas. Il a des fulgurances, parfois il fait des belles passes, il fait des mouvements intéressants, puis après il va rater pendant 10 minutes tout ce qu'il va essayer. Enfin, c'est un peu énervant.
Bah, moi, ce qui m'inquiète, c'est la même critique que j'ai avec lui depuis le début de l'année, c'est que ce qu'on supposait être ses points forts, ce pourquoi on l'a recruté, au final, c'est ses gros points faibles, quoi. Je veux dire, mentalement, il a semblé plongé après le premier but. C'est peut-être le moins concentré au milieu. C'est supposé être le taulier, le mec d'expérience. Et non, t'as l'impression que c'est un gamin de 18 ans qui découvre la Ligue 1. C'est dommage.
Bon, je pense que c'est pas un secret. On va le dire, il est lent. Mais en fait, quand t'es lent, quand par exemple tu prends un Gaëtan Charbonnier, il est presque impeccable techniquement.
C'est ça.
Et Paul Lannes, c'est pas ça du tout. Généralement, pour faire un contrôle, il lui faut deux touches de balle. Et deux touches de balle, quand t'es lent, bah, c'est vraiment très long. Et du coup, en Ligue 1, c'est pas possible. T'as déjà des mecs, des Sangaré, des William Vainqueur, qui vont venir te harceler. Et bah, c'est problématique quand même. Hein. C'est problématique. Peut-être que Belkebla pourra venir
exactement,
le remplacer.
J'allais poser la question. Est-ce que du coup, à effectif complet, vous sortez Paul Lannes pour Belkebla pour faire un milieu Batocchio Belkebla Diallo, donc c'est-à-dire un milieu de nains, mais
bah, à ce niveau-là, tu pourrais même mettre Magnetti. Hein.
Ouais, mais je pense que si Paul Lannes a pour lui sa taille, et c'est un peu con à dire hein, peut-être, mais voilà, le fait qu'il soit un peu plus grand que les autres, dans la balance, ça doit aussi peser lorsqu'il pense à l'équilibre de son équipe. Faire jouer trois petits joueurs, que ce soit avec Belkebla, Magnetti, Batocchio, Diallo, ça peut être également quelque chose de. Sachant que les équipes qui jouent le maintien, que ce soit Dijon, Amiens, Metz, Toulouse, c'est quand même des équipes de basketteurs. Donc bon.
Ou même.
Bah on le voit sur les coups de pied arrêtés contre Toulouse. Hein.
Ah oui, c'est très clair. Et c'était Paul Lannes qui était au marquage de Diakité. Hein.
Bah c'était une zone, mais c'était dans sa zone en tout cas.
Oui.
Bah dans l'absolu, moi, ça me choquerait pas de voir Mbok avoir d'autres chances, dans le sens où on sait que Diallo peut jouer un cran plus haut, un peu comme est supposé le faire Paul Lannes. Ça me choquerait pas d'avoir Mbok de nouveau.
Moi, je le sais, je verrais pas très bien Mbok en 8. Je sais pas pourquoi, mais.
Non, mais Mbok à la place de Diallo.
Non, mais bah, Diallo en 8 alors.
Ouais.
Pour moi, il est. Enfin, c'est le meilleur à boucher les espaces en 6. Pour moi, il est indéboulonnable en 6. Ensuite, les autres, tu peux les déplacer, mais pour moi, Diallo, c'est 6 et uniquement 6.
Ah, je suis d'accord avec toi, faut pas bouger Diallo. Hein.
Mais après, Mbok en 8, j'aime bien le voir face au jeu, en fait. Et je trouve qu'il a une qualité de frappe, une qualité de passe aussi. Et il prend des initiatives aussi avec le ballon, et c'est parfois ce qui peut nous manquer aussi. Et voilà, je préfère Mbok en 6, mais du coup, ça fait 2-6 et on peut pas voir Mbok et Diallo. Et pour moi, les deux évidences, ce serait soit Magnetti, soit Belkebla. Magnetti qui a montré qu'il pouvait jouer à ce poste-là contre Lorient et contre Lyon. Et Belkebla, c'est un peu plus l'interrogation. Il avait joué quelques fois en 8 sur les premiers épisodes où on avait vu le 4-3-3. Et on avait bien aimé sa participation et ses appels de balles beaucoup plus offensifs qu'il avait l'habitude de les faire en 4-2-3-1, logiquement, hein, puisque c'est pas le même poste. Mais pour moi, Belkebla, c'est l'évidence. Après, c'est possible que Paul Lannes aussi se sorte un peu les doigts et améliore son niveau de jeu.
Alors, pour revenir sur Diallo, alors il n'a pas fait un match complet, hein, parce qu'il est sorti la 40e. Mais c'est le Brestois qui a réussi le plus de passes, hein, alors qu'il est pourtant à un poste où il est sous, enfin, une petite situation. 87% de passes réussies, sachant qu'il en a fait 35. Ce qui est quand même plutôt.
Plus... Ça montre aussi qu'on avait le ballon après un mi-temps.
Oui, bien sûr, oui.
Et le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à avancer. C'était Diallo, puisque donc Toulouse était en 4-4-2, et c'était Diallo qui faisait un peu le pivot entre les deux défenseurs centraux. Et du coup, on n'arrivait pas à avancer et on enchaînait les passes. Et justement, c'est peut-être l'un des problèmes, puisque donc il manquait un milieu de terrain, puisque Diallo redescendait. Et à ce sujet, j'aurais bien aimé voir Larsonneur plutôt en tant que pivot, avec sa qualité de passe, sa qualité de jeu au pied, et voir Diallo un peu plus haut, quoi. Pour moi, c'était un doublon. En fait, il y avait un joueur qui ne servait à rien dans l'utilisation du ballon. Alors, c'est peut-être prendre beaucoup de risques, mais je pense qu'avec un Larsonneur, tu as peut-être l'un des meilleurs gardiens au niveau de son jeu de pied en Ligue 1. Donc, autant l'utiliser. Aussi à ce sujet, au niveau des 6 mètres, on n'a pas vu les sorties de balles basses. On a balancé, balancé, balancé.
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a changé la manière d'aborder le match à l'extérieur et d'être plus pragmatique et de renier peut-être ses principes de jeu pendant un temps pour repartir sur du concret et du solide, quitte à peut-être revenir lorsque le maintien sera acquis, s'il est acquis un jour. À ce genre de prestations. On verra sur le prochain match à l'extérieur, c'est à Dijon, c'est un match crucial aussi. Un match qui sera très difficile, parce qu'on sait que Dijon à domicile est très solide. À mon avis, ils ne vont pas jouer à prendre des risques.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, peut-être d'autres joueurs qui vous ont plu ou pas plu?
Bon, moi, j'aime bien toujours la volonté de Cardona d'aller de l'avant. Il a du déchet, il a beaucoup de déchets, hein, mais il a une marge de progression qui est intéressante et j'espère qu'il arrivera à passer un cap. Parce que je pense que ça peut être un très bon joueur. Voilà, il va vers l'avant et ça j'aime bien voir qu'il va un joueur qui va vite vers l'avant, ça change de certains autres qui n'étaient pas là à Toulouse. Et c'est plutôt
Déjà, il va vite.
Déjà, il va vite.
Il y a quand même une différence de profil assez nette avec d'autres joueurs sur la ligne d'attaque.
Bah, tous les autres, à part Grancier, en fait, vont pas très vite.
Et là-dessus, on voit une complémentarité entre Charbonnier, Cour et Cardona qui est assez agréable. Et je pense que c'est les meilleurs trois attaquants qu'on a et que s'ils sont en forme, en tout cas, ils sont indéboulonnables à ces trois postes-là.
Absolument.
Moi, je vais voir les choses d'une manière un peu plus statistique et positive énormément pour Johan Cour. C'est-à-dire, je pense qu'il n'a pas fait un très bon match. C'était pas forcément un mauvais match non plus, mais c'était pas un très bon match. Mais il arrive quand même à marquer. C'est une seule occasion, un seul but. Enfin, quand tu joues le maintien, il te faut ce genre de joueur à qui tout réussit, même quand t'es mauvais, où ils arrivent à sauver leur match sur une action. Et visiblement, c'est le genre de joueur qu'il est en train de devenir cette saison.
D'ailleurs, sur son face-à-face, il n'a pas semblé très très serein, par contre.
Non, je comprends pas ce qu'il essaye de faire, c'est un peu...
Mais bon, c'est pas très grave.
Non.
Et d'ailleurs, bon anniversaire à Johan Cour, qui fête ses 30 ans aujourd'hui, tout comme Julien Fossurier
et
Kevin Mailly. Voilà, c'est
33
un gros gâteau d'anniversaire pour le Stade Brestois aujourd'hui. Bon, ça tombe bien, il y a une petite trêve. Donc on peut se permettre de manger une grosse part, mais pas trop quand même. Parce qu'il y a quand même match jeudi.
Oui, sachant qu'il est diabétique en plus, je pense qu'il va pas
prendre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ouais. D'autres joueurs, peut-être un petit Cardona, on va parler. Bon, Charbonnier, évidemment. Défensivement.
Parlons peut-être défensivement. Non, de l'entrée de Mendy, j'ai juste abordé la question vite fait.
Allez, vas-y. Bah, on n'a pas peur d'avoir. On est plutôt content quand on a tort à ce niveau-là. Hein. On préfère critiquer et avoir tort après.
Oui, bah justement, c'est marrant parce que j'allais parler à la fois de Mendy et de Ball. Bah, Mendy, il a quand même changé la face de l'équipe en entrant. On peut pas le nier. C'est deux passes décisives, du coup, enfin une et demie, parce que la deuxième, enfin, il relance l'action.
Ah, une,
ouais, mais après l'action du.
Oui, il intervient dans le troisième but.
Voilà, il est impliqué dedans. Il peut même marquer son but. Hein. Je crois que c'est à 4-2, il a une occasion, mais je crois qu'il est signalé hors jeu, mais bon, il n'est pas trop trop loin. Bon, ben Mendy sur ce match, voilà, plutôt intéressant, mais après, il faut voir sur la durée. Moi, j'y crois, je disais plus tellement non plus, mais bon, après, voilà, sur un rôle de peut-être de remplaçant, ça peut être intéressant plutôt qu'un joueur qui débute le match. Et après, Ludovic Ball, plutôt solide, plus rassurant défensivement que Perrault, j'ai trouvé.
Sur Alexandre Mendy, moi, plus les matchs passent, plus j'ai un comparatif qui me vient à l'esprit. C'est avec Issam Djema, c'est-à-dire que c'est un mec, ça nous fait chier de le voir jouer. Mais je suis persuadé qu'au final, c'est peut-être lui qui va faire la différence en te faisant gagner un ou trois points vraiment décisifs sortis de nulle part.
Ça, c'est un. C'est risqué quand même comme affirmation.
Oui.
Parce que les cotes ne sont pas avec toi, en tout cas.
Oui, c'est sûr. Mais elle n'était pas avec Issam Djema contre Evian.
Par contre, bonne nouvelle pour Alexandre Mendy, il a l'air d'être impliqué.
Oui.
Et d'être intégré au groupe, puisque donc, quand Charbonnier marque, il va immédiatement. Voir Mendy et Mendy va en courant voir Charbonnier, donc voilà, c'est.
Idem sur le but de Bock. Dembock, il court vers lui en sprintant immédiatement. Enfin, il n'est pas du tout nonchalant comme on aurait.
Voilà, c'est une bonne chose. On prend les petits points positifs, mais il y en a. Donc.
Il ne faudrait pas qu'il soit trop impliqué et qu'il veuille rester, quoi. Ce serait quand même.
Ce serait con. Implique-toi, mais pas trop quand même. Sois content, mais pas trop. Eh ben, je crois qu'on a été complet hein, sur Toulouse. Comme on l'a dit, match très compliqué à analyser quand même. Hein. Avec deux stades brestois différents. Et finalement, même dans les différences, il y a des différences. Donc c'est compliqué. Mais après, un très gros coup en tout cas.
Des choses qui restent similaires, c'est notamment la friabilité sur coup de pied arrêté. Quoi. Et ça me dérange un petit peu, sachant qu'on va jouer contre des équipes qui connaissent maintenant nos points faibles. Il faudrait quand même parvenir à régler ce genre de choses-là.
Après, malheureusement, les coups de pied arrêtés, si la balle est à 2,10 mètres du sol, les plus grands, généralement, prendront le ballon. Donc voilà, c'est compliqué. Tu peux pas demander à Paul Lane de sauter très haut.
Il n'a même pas été un petit peu gêné quoi, dans son...
Non, voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais par contre, je pense qu'on sera toujours en difficulté sur les coups de pied arrêtés.
Possible.
En plus... On n'a pas un gardien très grand non plus qui peut rassurer sur les sorties aériennes, même s'il a progressé, je pense, que dans ce secteur-là. Mais voilà, c'est un problème général, je dirais. Même si là, la concentration était quand même clairement à mettre en cause. On va passer aux news, peut-être.
Passons aux news.
Passons aux news. Avec, donc, on va commencer par quelques résultats, et surtout des résultats des féminines. C'était-elles les seules à jouer ce week-end? Et la semaine dernière, puisqu'elles avaient fait deux partout mercredi dernier à Saint-Malo, avec un doublé de Myriam Zanoubi, qui avait ouvert le score, et les Brestoises qui menaient 2-0 après 15 minutes de jeu, elles se sont malheureusement fait rejoindre, et elles se sont inclinées dimanche contre Montauban à domicile en 16e de finale de la Coupe de France féminine, terminée pour la Coupe de France, hein, et, finalement, voilà, La coupe et le stade brestois, c'est que ce soit féminin ou masculin, voilà, ça c'est le même logo, hein. Donc on peut pas espérer des exploits monumentaux. Elle rejoue contre Montauban ce week-end, donc dimanche à 13h, et ce sera par contre au Relais de Kerrieux. La N3 joue contre Guichin samedi à 18h à Ménespol, et les U17 jouent contre Laval dimanche à 14h30 à Penhélène. Voilà le programme du week-end pour les U18 et les U16, ça reprendra encore un peu plus tard. Des anciens Brestois peut-être, Yann, qui ont brillé ou pas brillé d'ailleurs, puisque pour certains, les déplacements moustoirs s'enchaînent mais ne se ressemblent pas.
Et oui, puisque c'était le match où il y a eu plus de Brestois impliqués, à savoir Anthony Weber et JCP. Alors JCP a marqué sur penalty, encore une fois, c'est bien pour lui. Par contre, Anthony Weber, ça a été compliqué pour lui. Il a pris un carton rouge, je crois que c'est après une demi-heure de jeu, où, de manière assez grossière, il prend 15 mètres dans la vue, par un mec qui n'est, je crois que c'était Pierre-Yves Hamel, qui n'est pas très rapide de base, quoi. C'est dur. Mais bon, du coup, ça fait carton rouge. Le SM Caen a perdu 2-1 contre le FC Lorient. Bon, voilà, c'est pas les seuls à perdre 2-1 contre Lorient, on va pas leur jeter la pierre. Après, si on reste au niveau des Brestois qui ont brillé, force est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup sur cette semaine, mais il y en a un qui a brillé, et il a brillé un peu à notre avantage, c'est Gaëtan Laborde. Alors on se souvient, il nous avait mis la misère avant la trêve, hein, puisqu'il nous avait mis un doublé, si je ne me trompe pas. Et ce week-end, contre Amiens, il a marqué de nouveau, et il a délivré une passe décisive. Donc le MHSC a gagné 2-1, donc grâce à Gaëtan Laborde. Et donc, ça nous permet d'être à, il me semble, 8 points d'Amiens. Ce qui est un confort, somme toute, raisonnable. Voilà. Après, globalement, il y avait un autre match aussi à suivre un peu, si on voulait suivre les Brestois. C'était un match de gardien en Ligue 2. C'était entre Rodez et Châteauroux. Avec d'un côté, Arthur Desmas, gardien de Rodez, qui, sauf erreur de ma part, n'a jamais joué en professionnel au Stade Brestois, mais est formé au Stade Brestois. Et donc, Julien Fabry du côté de Châteauroux. Ça a été une victoire pour Châteauroux 2-1 avec un but de Châteauroux à la 93e minute sur lequel Arthur Desmas n'est pas franchement impérial. Voilà. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose à retenir chez les anciens Brestois. Y en a un qui pourrait peut-être commencer à briller, c'est Charlison Benchop, puisqu'il a été transféré à Limassol sur ce mercato hivernal. Donc, on verra ce que ça donnera à Chypre.
Il y aura un match amical aussi jeudi.
Oui. Contre Avranches, à la base ça devait être contre Saint-Brieuc. Et je crois que c'est face à la cascade de blessés de Saint-Brieuc, l'adversaire a été changé. Et donc Brest jouera donc ce jeudi contre Avranches en amical à Le Blé, et c'est un match à huis clos.
Donc c'est un match où on reverra au moins un ancien Brestois, à savoir Pierre Magnon, a priori. Ça fera toujours plaisir de le revoir, pour lui comme pour ses anciens coéquipiers. Puis je vais en profiter aussi du fait qu'on joue le S Avranches pour faire un petit point Guillaume Buon. Je sais pas si vous en souvenez, mais c'est notre défenseur central qu'on a prêté à Avranches. Vous avez dû vous en rendre compte, on en a quasiment jamais parlé dans les Brestois qui ont brillé, pour la simple et bonne raison qu'il ne joue pas avec l'équipe première d'Avranches. Il se retrouve relégué en N3. Alors ça c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas au Stade Brestois de décider si tel joueur devrait jouer en première à Avranches, mais à partir du moment où Avranches considère qu'il n'a le niveau que de la N3, faudrait peut-être se poser la question d'éventuellement le rapatrier à Brest, puisque la B de Brest est en N3 aussi. Franchement, je vois pas trop l'intérêt de le laisser là-bas si Avranches a acté le fait qu'il est un joueur du groupe N3, ce qui peut tout à fait se comprendre, bien sûr.
Et ce sera plutôt opportun parce que Romain Thunès est blessé, donc ligament croisé. Donc un défenseur de la N3. Alors Baptiste Gauthier qui a été recruté en provenance de la réserve du Stade Rennais, je crois que c'est un milieu défensif qui peut aussi jouer défenseur central. Mais effectivement, il y a une place qui se libère là en défense centrale avec la réserve. Donc à voir qui la prendra. Je ne sais pas si Stade Brestois prendra la décision de ramener Guillaume Buon. Je ne sais pas s'il peut d'ailleurs. Mais ça peut être une idée. Au niveau des joueurs prêtés aussi, il y a transfert, alerte transfert. Puisque donc Derrick Ozeio a été prêté à Béziers. Et au-delà du fait que voilà, on lui souhaite de réussir à Béziers, c'est une bonne nouvelle de voir que le Stade Brestois arrive à prêter ses jeunes désormais. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et voilà, c'est de bon augure pour certains, peut-être, qui arriveront à trouver les points de chute quand ils seront suffisamment forts pour de la N3, mais pas assez pour de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Ce qui n'est peut-être pas le cas d'Ozeio, qui ne surnage pas non plus en N3. Donc, bon.
Oui, ce que j'allais dire, oui.
Il a une bonne réputation, je pense. Donc, voilà, ça. Puis il a quand même joué quelques matchs de Ligue 2, quelques matchs de coupe aussi. Donc
Ah bon.
voilà, ça, sur un CV, ça fait pas mal.
Et puis il a toujours sa réputation d'ancien grand espoir toulousain, qui,
Et
je pense.
je crois qu'il a quelques sélections en équipe de France aussi, U16 ou
Oui.
U17. Donc pareil, quand tu regardes sur Transfermarkt, ça fait peut-être la différence entre deux joueurs. Alors, peut-être, puisqu'on a un peu de temps, parler du communiqué du Stade Brestois et sur l'affaire du stade, du nouveau stade. Donc un communiqué qui est paru la semaine dernière, je ne sais plus exactement quel jour,
C'est
mais
vendredi.
tout le monde a ses petits avis sur ce communiqué. Personnellement, je le trouve assez étrange, que ce soit dans le contenu ou dans le timing. Fanch, tu étais plutôt d'accord, toi, avec ce communiqué?
Bah d'accord, dans le sens où, comme Denis Le Saint a présenté ses voeux en parlant du stade et qu'on lui a répondu, enfin des candidats écologistes à la mairie de Brest lui ont répondu indirectement, hein, en disant que s'ils étaient élus, ils s'opposeraient, en tout cas, ils essaieraient de renégocier ou de revoir la question du stade et préféreraient une rénovation de Francis Leblay plutôt que la construction d'un nouveau stade au Froutevent. Voilà, le stade, je pense aussi, c'est à lui de montrer, comme c'est un projet privé, etc., c'est aussi au club de montrer sa détermination. C'est aussi un moyen de rassurer, je pense, les supporters et les suiveurs du club et de voilà d'exister. Les Verts avaient, pour pas les nommer, avaient décidé de sortir du bois et de parler de ce sujet. Je trouve que c'est normal. Après, dans le fond, on peut discuter du fond, mais dans la forme, je trouve ça normal de la part du club de réagir. Et en plus, dans le fond, toi, Yann, tu dis qu'on n'apprend pas grand-chose. On apprend quand même plusieurs choses. Notamment, ils ont chiffré la rénovation de Francis Leblay en millions d'euros, autour de 50 millions d'euros, ce qui est vraiment colossal. Donc, autant construire un nouveau stade, c'est clair. Même si moi, d'un
Est-ce
point
qu'il
de
sera payé par les contribuables?
comment la rénovation, bien sûr, oui.
Donc,
Tandis que
je pense que quand un citoyen brestois lit ça, je pense que c'est l'argument qui fait pencher la balance entre la construction d'un nouveau stade ou la rénovation d'un Francis Leblay.
c'est ça, et voilà, du coup maintenant j'ai oublié ce que j'allais dire, mais t'as tout à fait raison, il y a ça aussi, il joue là-dessus. Et si tu me demandes mon avis personnel, moi évidemment je préfère Francis Leblay de par sa localisation en centre-ville, par son histoire, mais il faut quand même, enfin il faut reconnaître, t'es d'accord avec moi, je le sais, Yann, je pense aussi que les conditions d'accueil à Leblay ne sont absolument plus réunies. On sait que le stade a besoin de moult dérogations pour pouvoir accueillir des matchs de Ligue 1. On sait que les quarts régies, il faut un espace de 1000 mètres carrés, je crois, pour la régie TV, enfin pour la télé, qui sont obligés de prendre les espaces de l'école Charles de Foucault. Bon, ça va un temps, c'était bien dans les années 2000, ça commençait déjà à vieillir dans notre premier passage en Ligue 1, en 2010-2013. Là, c'est urgent de faire quelque chose, quoi.
Je crois qu'on a appris aussi qu'il y aura un naming sûr.
Ah, j'ai pas entendu ça, tiens, mais ça m'étonne pas trop.
Parce qu'il parle de naming à la fin en disant que si on n'arrive pas à trouver un naming pour Francis Leblay, ça coûtera encore plus cher, quoi, pour le contribuable. Donc les 50 millions d'euros seraient à la charge du contribuable. Plutôt que s'il y avait un naming et peut-être je sais pas, 1 million d'euros par an, ça me semble beaucoup pour un club comme Brest. Mais voilà, ce serait 1 million d'euros par an. De moins quoi, pour le à payer pour le contribuable. Donc je pense que est assuré pour le prochain stade, ce qui n'est pas idéal.
Moi, il y a un point qui... Enfin, je dirais pas que ça m'inquiète en soi, mais tout le monde le sait que le Stade Brestois a énormément de dérogations avec la Ligue tous les ans, mais qu'on soit obligé de le rappeler, bah, ça me laisse peut-être à penser que les dérogations, on les a de plus en plus difficilement, et qu'il faudrait pas forcément que ça traîne outre mesure cette histoire de nouveau stade ou d'éventuelles rénovations. Parce que je sais que déjà en 2012-2013, on avait déjà un paquet de dérogations incroyables que même des clubs de Ligue 2 n'ont pas. Et je pense que 6 ans après, comme tu as dit, c'est encore le cas. Donc je vais pas dire que le temps nous est compté, mais je suis pas sûr qu'on ait plus de 5-6 saisons devant nous avant que la Ligue n'intervienne.
Moi je pense que oui, le temps est compté. Hein.
Bah, je pense qu'il parle de l'avenir du football brestois, non ?
Ah bah oui, clairement.
Si je dis pas de bêtises, c'est l'avenir du football brestois qui est en jeu, là.
Bah,
La question, c'est de savoir à quelle échéance, quoi. Si c'est vraiment du court terme, ou pas.
Tant qu'on est en Ligue 1, je pense qu'il y a quand même... On peut encore espérer... En revanche, si on descend en Ligue 2, ça pourrait sentir très vite mauvais, à mon avis. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. J'essaye de retrouver le communiqué, mais je le retrouve pas, évidemment.
C'est tout bête, mais quand je compare à la situation de Troyes qui s'est vu fermer, je crois que c'est une ou deux de ses tribunes de manière préventive, pour avoir été à Troyes une ou deux fois, enfin, leur stade est en bien meilleur état que le nôtre.
Ouais, mais c'était un problème de construction là-bas.
Oui, enfin, la tribune Quimper.
Ah oui, c'est vrai que c'est un problème de construction aussi.
De temps en temps, on voit des sièges qui arrivent à s'être. Se faire décrocher, voilà. Je crois que il y a très peu de temps, il y avait deux ou trois sièges qui s'étaient un peu effondrés. Je crois que tu t'en souviens, comme moi, Fanche.
Oui.
Donc, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe.
Mais vous, vous êtes plus pour la rénovation ou...
Non.
Bah, moi, ce qui me pose... Enfin, j'aurais rien contre l'idée d'une rénovation, si ce n'est que si on rénove, il y a deux possibilités. Soit... On le fait dans un laps de temps très court, c'est-à-dire pendant la trêve de cet été, et donc fondamentalement ça servira à rien. Soit on ira jouer ailleurs pendant qu'on sera en train de reconstruire et ça ne va pas comme solution. Puisque ailleurs, ça serait Guingamp, Saint-Brieuc, Lorient. Donc non, clairement, nouveau stade pour moi.
Nouveau stade, par contre, il faudrait quand même faire quelque chose au niveau des transports en commun, parce que ce ne sera pas possible de déplacer 10 000 personnes en tramway.
Pourtant,
c'est un terminus.
Ouais, mais je pense que pour le stade, ils mettront plus du coup de tram et tout. Ce sera un peu. Je pense que de toute façon, ce sera la mort, ce sera compliqué. Mais ils mettront quand même un service renforcé pour les soirs de match.
Parce que finalement, quand tu arrives de la ville, tu as donc le tram et des petites routes à côté. Donc ça va rapidement se transformer en des bouchons assez gigantesques. Donc il faudra faire quelque chose au niveau de l'urbanisme.
Bon, mais de toute façon, l'emplacement, oui, je pense
que
le stationnement, ça va être très très compliqué, je pense aussi. De toute façon, il n'est pas sorti de terre encore, ce truc.
Hein, non, c'est sûr que. Autant quand on lit le truc, on a l'impression qu'il faut agir vite, mais on sait très bien qu'il n'y aura pas de ça d'ici 5 ou 6 ans. Donc. Sauce sera-t-on mangé d'ici là ?
Ce sera une. N'oublions pas que l'article sur une présentation du nouveau stade, qu'il a été sorti le 16 mars 2018.
Et depuis ?
Depuis rien du tout.
Non, voilà, c'est
concertation ça. Est ouverte depuis le 6 décembre 2018. Voilà, et c'est tout. Il n'y a pas grand chose de neuf. C'était prévu en 2022. Bon, bah, je pense qu'on peut s'asseoir dessus.
Eh oui, mais pas encore sur les places du nouveau stade. Pas encore s'asseoir dessus là, à ce niveau-là. C'est pas demain qu'on aura des frites dans notre tribune.
Non.
Alors, est-ce que tu as des jeux, Yann ?
Oui, j'ai des jeux, puisque la semaine dernière, nous n'avons pas vraiment pu aborder la question de Brest-Toulouse. Bon, le faire avec un petit peu de décalage, on va le faire aujourd'hui. Donc, êtes-vous partant, messieurs ?
Non.
Eh bien, je prends les 3 points.
Tout à fait, c'est 3 points mérités. Surtout que, effectivement, j'ai 3 questions.
Incroyable, allez, vas-y.
Alors, la première, elle va renvoyer au match aller. Je pense que vous en souvenez tous, on avait fait un partout contre Toulouse à domicile. Sur un but de Coloris à la 94e minute. Mais on avait aussi eu ce petit luxe de rater un penalty.
Oui.
Alors, vous vous souvenez, c'est Gaëtan Charbonnier qui l'avait tiré. Mais au juste, est-ce que vous vous souvenez quel Toulousain avait fait la faute?
Roguel.
Non, si vous voulez, je peux vous donner les 4 défenseurs toulousains alignés pour ce match, puisque c'était ces 4-là qui... Enfin, c'est un défenseur qui est à l'origine de cette faute.
Ah, c'est pas Roguel déjà, donc il n'y a plus que 3.
Vous voulez que je vous les donne?
Bah, ça va être trop facile, je pense, sinon non.
Oui. Réfléchir, je pense à la composition. Est-ce que ce serait pas Diakité qui a marqué les buts?
Non, ça aurait été beau, mais non. Donc il en reste 2, c'était un des latéraux.
Pouh, je me souviens même plus de qui. Il y a eu Arcilla et de l'autre côté, Kevin Amiens peut-être.
Oui, c'était un des 2.
Oh putain.
Quentin, je me fais même pas de la faute, moi. Je me souviens même plus de la faute et sur qui. Moi, je pensais que la question, c'était sur qui était la faute. Mais je me souviens même pas de ça. Donc,
Et j'en dis un et tu dis l'autre, Quentin. Moi, je dis Kevin Amiens.
Pareil.
Eh bien, c'était Scylla. Mais du coup, Quentin me donne une bonne idée sur qui était la faute.
Je ne sais pas.
Grand Cyr?
Non.
Retraite?
Oui. Donc,
évidemment, retraite, évidemment.
Oui, c'était une charge dans le dos, suivie d'un tacle et une main. Donc, il avait fait la totale. Hein, salade, oui, tomate, oignon.
Le panier garni.
C'est ça, voilà. Donc, c'était... Allez, je vais donner le premier point à Quentin pour retraite. Même si, bon, c'est un peu litige. Ma seconde question, elle va s'axer sur un joueur du Stade Brestois en particulier, c'est Johan Cour.
Évidemment.
Et oui, c'est pas une grande surprise, me connaissant. Johan Cour a marqué contre Toulouse, enfin a marqué ce week-end son 2e but de sa carrière contre Toulouse. Avec qui avait-il marqué le premier?
3.
Non.
Sedan?
Non.
Bourg-Péronas, Bourg-en-Bresse.
Oui, voilà, oui, j'avais un doute. Est-ce que Bourg-Péronas et Bourg-en-Bresse? Mais oui.
Mais oui, Bourg-en-Bresse-Péronas.
C'est ça, c'était en Coupe de France.
Ah, bah. Donc, voilà. On apprend tous les jours comme ça.
Et oui.
Vive les jeux, surtout quand on gagne.
Surtout quand, oui. Et c'est assez rare de voir François perdre.
Oui, mais, merci de signaler.
Mais ce n'est pas encore fini. Et Quentin, es-tu joueur et acceptes-tu celui qui trouve la dernière réponse l'emporte?
Bien sûr qu'on n'est pas joueur.
Alors, la dernière question, elle va être concentrée sur...
Honteux, ce propos de Quentin, n'oubliez pas que je vous ai offert une place pour le match du coup de la Ligue historique, et voilà comment on est remercié.
Elle va être concentrée sur
le stade... Eh oui, trop con.
On va se concentrer sur le stade Brestois 29 à l'extérieur cette saison. Donc, on a mis 5 buts, mais qui... Et le meilleur buteur du Stade Brestois à l'extérieur cette saison.
Cardona, 3 buts, Marseille, Angers et Toulouse. Petite musique, victoire.
Attends,
il a la réponse et il l'a même pas, lui.
Non, je vérifie si j'ai pas oublié les matchs de coupe.
Ah. Dans ce cas, il y a Charbonnier aussi avec 3 buts.
Voilà.
De toute façon, c'est Cardona qui a marqué à Metz aussi.
Ah oui, exact.
Ah bah oui, voilà. Donc, oui. Si tu veux, on peut la refaire.
C'est comme ça que je te remercie.
C'est beau.
Et donc, oui, voilà, c'était Irvine Cardona. Donc, François prend 1, 2 ou 3 points selon la bonne volonté de Quentin.
Bravo pour ton point. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça va terminer pour ce 24e épisode de ce podcast. On a dépassé bientôt la mi-saison. Donc, quelques mois de podcast et on espère avec une issue... positif pour le maintien du Stade Brestois. Mais on va vous donner rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'analyse du match ou la présentation plutôt du match contre Amiens, donc encore un match très important.
Je sans vouloir m'avancer, si on gagne ce prochain,
ça sent bien.
Si on gagne Amiens, c'est pas du tout cuit, mais ce sera, on pourra aller à Dijon les mains dans les poches presque, et c'est quand même
un luxe qu'on ne pensait pas avoir.
Voilà, c'est ça. Non, mais si on gagne Amiens, c'est le match le plus important de la saison pour moi là. Vraiment, c'est un tournant. Tu les bats, ça faut voir aussi le résultat qu'ils font qu'ils ont fait hier du coup. Vous le connaissez contre Reims, mais si jamais ils n'ont pas gagné et que nous on arrive à les battre, Aïdon.
En tout cas, merci à vous deux pour ce petit teasing du podcast de la semaine prochaine. Mais on va justement vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour donc ce podcast numéro 25. On espère que vous avez apprécié ce podcast numéro 24. Et allez Brest!
Allez Brest!
Et là-haut! En bas de la croisière et dans la planche baleinière, chamboué notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.